Radio kiosque.
Lecture subversive une fois par mois. Radio kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Sainte-Afrique.
Garantie sans propagande.
Bonjour madame, bonjour monsieur, toute l'équipe de Youpi Matin et moi-même sont heureux de vous accueillir sur le plateau de Youpi Matin, les petits matins qui chantent. Alors il est 6h30 et si vous n'êtes pas encore en forme, eh bien Youpi Matin est là avec toutes ses rubriques pour s'en charger. Et tout de suite on retrouve Bouquin Matin, la rubrique avec Jean-Pierre.
Bouquin Matin.
Ah, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Salut William.
Je suis ici, Jean-Pierre.
Ah, salut, William.
La pêche. Alors, quoi de neuf, Jean-Pierre, aujourd'hui?
Alors, pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et paix, et c'est édité chez Plon.
Super. Jean-Pierre, un petit café?
Ah, je veux bien.
Alors, Jean-Pierre, un petit peu pour nous résumer, l'histoire, c'est quoi un petit peu l'histoire de guerre?
Alors, l'histoire est toute simple, c'est l'histoire de la guerre et de la paix.
Oui.
Et c'est Tolstoï qui l'a écrit.
Ah, un petit peu de café, Jean-Pierre?
Ah, je veux bien, un petit peu.
Alors, quelqu'un qui a dû se lever du bon pied avec Youpi Matin pour regarder tout ça. Hein.
Tout à fait.
Allez, il est 6h34, Jean-Pierre, on va passer à Zodiac Matin.
Pêche.
Horoscope Matin.
C'est à vous, Valentine de Tesser.
Bonjour. Aujourd'hui, les béliers sont un petit peu en stress comme d'habitude. Sinon, les taureaux avec les cornes, c'est un petit peu sale caractère, ça c'est normal. Les rats précornes, les bitères et tout ça, un petit peu comme les autres. Et puis, on va en arriver forcément aux poissons. Les petits poissons dans l'eau.
Merci Jean-Pierre pour l'horoscope et il est 6h37. On retrouve tout de suite Gym Matin du Tonus. 1, 2, 3, c'est parti.
Gymnastique Matin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bien sûr le moment de Gym Matin. Attention, il faut se réveiller. Suffit la parlotte, William. Attention, William.
Ah, loupé.
On écoute, on y va. Attention, on met les mains derrière la nuque et on me suit. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Et on étire, et on étire. Attention, on va fléchir. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9.
Merci, on va peut-être passer à la cuisine.
Cuisine Matin.
La cuisine, effectivement. Alors, pour la cuisine, il faut retrouver tout de suite Michel. Michel, quel plaisir de vous retrouver.
Eh bien, bonjour, William. Quel plaisir de vous retrouver.
Ça sent bon, tout ça. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, Michel?
Eh bien, c'est une surprise, bien sûr. Alors, hier, nous avons vu ensemble le céleri rémoulade au Jurançon. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation du fameux hachis parmentier. Hachis parmentier qui fait le régal des petits comme des grands.
Bien.
Alors, pour le hachis parmentier, deux éléments essentiels. Le hachis, bien sûr, et...
Le parmentier.
Le parmentier. Ah. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Alors, bien sûr, une précision très importante pour ceux qui n'auraient pas de hachoir électrique, bien manipuler, bien sûr, le hachoir à main, qui se manipule comme ceci, n'est-ce pas? J'ai mal.
On va peut-être passer à la suite, Michel.
J'ai mal.
Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo.
J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal.
Météo Matin.
Alors, le temps, effectivement, William, le temps. Alors, dans l'ensemble du pays, il y aura quand même des nuages à Albrecht, de la pluie à Bordeaux, un vent sec et moite du côté de Paris, un petit peu de soleil quand même, hein, par-ci, par-là, dans l'ensemble de la France, bien sûr. Et puis voilà, donc il y aura des températures au nord-ouest du sud-ouest de la France, et le soleil se couchera, comme tous les jours, il a bien de la chance.
Youpi Matin.
J'ai mal. Au secours.
Étrangère à soi, réflexion sur le courant du self-care.
Dans les années 1980, alors qu'elle luttait contre le cancer, Audrey Lorde a affirmé que de prendre soin d'elle-même était un acte de guerre politique. Depuis, le self-care, à traduire par « prendre soin de soi-même », est devenu un mot à la mode dans les milieux activistes. La rhétorique du self-care est passée de spécifique à universelle, de provocative à obligatoire. Lorsqu'on parle de self-care aujourd'hui, parle-t-on de la même chose que Lorde à l'époque ? Il est temps de réexaminer le concept. Quel est donc le problème du care ? Et pourquoi, parmi tous les sujets possibles, choisir le self-care ? Tout d'abord parce que c'est devenu une vache sacrée. S'il est pénible d'entendre les gens parler benoîtement de quoi que ce soit, il l'est davantage lorsqu'il s'agit des choses les plus importantes. L'unanimité pieuse implique un côté obscur, dans l'ombre de chaque église, un nid d'injustice. Il crée un autre, traçant une ligne à travers nous et entre nous. Donc self, soi, et care, soin, dans cet ordre, sont des valeurs universellement reconnues dans notre société. Quiconque cautionne le self-care est du côté des bons. Ce qui revient à dire qu'une telle personne est contre tout ce qui, en nous, ne correspond pas au système de valeurs prédominant. Si nous souhaitons résister à l'ordre dominant, nous devons de jouer l'avocat du diable à la recherche de ce qui est exclu et dénigré. À chaque fois qu'une valeur est considérée comme universelle, nous retrouvons de la pression normative. Par exemple, la pression de prendre soin de soi, de performer le soin, en quelque sorte, pour le bien des autres, pour maintenir les apparences. Une part importante de ce que nous faisons en société consiste à maintenir une image de réussite et d'individu autonome, peu importe la réalité. Dans ce contexte, la rhétorique du self-care peut masquer et contrôle. Occupe-toi de toi-même et de tes problèmes, s'il te plaît, pour que personne d'autre n'ait à le faire.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Assumer que le self-care est toujours bon signifie prendre pour acquis que le self et le care ont toujours le même sens. Nous voulons ici remettre en question les définitions monolithiques et statiques du soin et du soi. Ainsi, ce que nous proposons, c'est que différents types de soins produisent différents types de soi et que le soin est l'un des champs de bataille où se jouent les luttes sociales. Ne me dis pas de me calmer. Quoique ses partisans soulignent que le self-care peut prendre une autre forme différente pour chaque personne, les suggestions qu'ils apportent sont toutes un peu les mêmes, ce qui est plutôt louche. Que voyez-vous en pensant aux activités stéréotypes dites de bien-être ? Boire de la tisane, regarder un film, prendre un bain moussant, faire de la méditation ou du yoga ? Cette sélection suggère une idée vraiment restreinte de ce qu'est le self-care, essentiellement se calmer les nerfs. Toutes ces activités sont conçues pour interagir avec le système nerveux parasympathique, lequel régule le repos et la récupération. Mais certaines formes de soins requièrent de l'activité vigoureuse et de l'adrénaline, qui relèvent aussi du système nerveux parasympathique. Par exemple, une façon de prévenir le désordre de stress post-traumatique est de donner suffisamment de liberté au système nerveux parasympathique pour qu'il puisse évacuer le traumatisme du corps. Quand une personne a une attaque de panique, tenter de la calmer aide rarement. Le meilleur moyen pour gérer une telle attaque est peut-être de courir. Alors, commençons par rejeter toute compréhension normative de ce que signifie prendre soin de soi. Cela peut vouloir dire allumer des chandelles, ou écouter un album de Nina Simone, ou relire l'histoire de Rémi sans famille, mais ça peut aussi vouloir dire faire du BDSM, ou d'intenses performances artistiques, des combats d'arts martiaux, briser les vitres d'une banque, ou confronter un agresseur. Pour certaines personnes, cela peut vouloir dire de travailler vraiment fort, et pour d'autres, de complètement cesser de fonctionner. Il ne s'agit pas seulement d'une platitude post-moderne, à savoir différents moyens pour différentes personnes, mais bien de déterminer quel est notre rapport à nos défis et à nos angoisses. Prendre soin de soi ne veut pas forcément dire se pacifier. Nous devrions nous méfier de toute compréhension du self-care qui amalgame bien-être et placidité, ou qui nous demande de performer la santé pour les autres. Peut-on plutôt imaginer une forme de care qui outillerait chacun de nous pour parvenir à établir une relation intentionnelle avec notre côté obscur, nous permettant ainsi de puiser de nouvelles forces dans notre tourbillonnant chaos intérieur ? Être doux avec soi-même peut être une partie essentielle pour y parvenir, mais nous ne devons pas établir une dichotomie entre la guérison et interagir avec les défis autour et à l'intérieur de nous. Si le care est seulement ce qui se produit lorsque l'on se détache de nos luttes, nous serons pour toujours déchirés entre l'insatisfaction de s'être retiré du conflit ou son envers, un travail compulsif qui n'est jamais suffisant. Idéalement, le Caire intégrerait et transcenderait à la fois la lutte et le repos, en démontant ainsi les frontières qui les séparent. Ce genre de Caire ne peut pas être décrit avec des platitudes. Ce n'est pas un item commode à ajouter au programme d'une organisation sans but lucratif. Il requiert des mesures qui interrompront nos rôles actuels, nous mettant en conflit avec la société en général, et même avec certaines personnes qui prétendent essayer de changer le monde. L'amour est un champ de bataille. Pour identifier ce qui vaut la peine d'être préservé dans ce concept de self-care, on peut commencer par scruter le concept de care, donc le soin. Quand on affirme que le care est un bien universel, on passe à côté du rôle qu'il joue dans la perpétuation des pires aspects du statu quo. Le care dans sa forme pure, dissocié d'un quotidien dans une société capitaliste et des luttes contre le capitalisme, n'existe pas. Le care est partisan, il peut être répressif ou libérateur. Certaines formes de care reproduisent l'ordre existant et sa logique, d'autres nous permettent de le combattre. Nous voulons que nos manifestations du care nourrissent la libération, pas la domination. Unir les gens selon une nouvelle logique et de nouvelles valeurs. Des aides à domicile, en passant par les professionnels de l'entretien ménager, sans parler des dispenseurs de soins infirmiers, des services d'hospitalité ou des lignes téléphoniques érotiques, les femmes et les personnes de couleur sont en charge de façon disproportionnée des soins qui maintiennent ces sociétés en fonction, mais ont, disproportionnellement, peu d'influence sur ce que ces soins renforcent. Ainsi, une énorme quantité de ces soins sert à huiler le mécanisme qui maintient la hiérarchie en place. Les familles aident les policiers à se détendre après le travail, les travailleuses du sexe aident les hommes d'affaires à relâcher la pression, les secrétaires sont la main invisible qui sauve les mariages de leur patron cadre. Le problème avec le self-care n'est pas seulement sa composante individualiste. Pour certains d'entre nous, se concentrer sur le self-care plutôt que de prendre soin des autres serait d'ailleurs une proposition révolutionnaire, quoique presque inimaginable, alors que les privilégiés peuvent se féliciter mutuellement sur leurs excellentes pratiques du self-care sans reconnaître à quel point leur subsistance dépend des autres. Lorsque nous concevons le self-care comme une responsabilité individuelle, nous sommes moins susceptibles de voir les dimensions politiques qu'il engendre. Des appels à une grève du soin ont été lancés. Une résistance collective publique contre la façon dont le capitalisme a réquisitionné le soin. Dans leur texte, une grève très prudente, le groupe militant espagnol Precarias a la Deriva explore les voies par lesquelles le care a été ou est rendu invisible. Travail du sexe, service à la clientèle, soins émotionnels non rémunérés dans les familles, etc. Le groupe nous met au défi d'imaginer des moyens d'arracher le care à son rôle de maintien d'une société stratifiée, pour plutôt devenir un outil de solidarité et de révolte. Mais un tel projet repose sur les épaules de celles et ceux qui sont déjà parmi les plus vulnérables de la société. Il faudrait une quantité énorme de soutien pour les membres de famille, les travailleuses du sexe, les secrétaires, etc., pour pouvoir mener une grève sans en subir des conséquences consternantes. Donc, plutôt que de promouvoir le self-care, nous pourrions rechercher à réorienter et redéfinir ce qu'il pourrait être. Pour certains d'entre nous, cela signifie reconnaître la façon dont nous bénéficions du déséquilibre dans la répartition actuelle du soin, et de passer de formes de soins qui se concentrent sur soi seulement vers des structures bénéfiques pour tous les participants. C'est se demander, qui travaille pour que vous puissiez vous reposer? Pour d'autres personnes, cette réorientation pourrait signifier de mieux prendre soin de soi que ce à quoi nous avons appris ou ce que nous avons droit, même s'il est irréaliste de s'attendre à ce que quelqu'un entreprenne cela individuellement dans une sorte d'approche de consommateur de soi. Plutôt que de créer des communautés fermées du care, recherchons des formes de care exhaustives, globales, qui brisent l'isolement et menacent nos hiérarchies. La rhétorique du self-care a été réappropriée de manière à renforcer le sentiment qu'ont les privilégiés que tout leur est dû. Mais une critique du self-care ne doit pas être utilisée comme une arme supplémentaire contre ceux qui sont déjà découragés de demander de l'aide et des soins. En bref, step up, step back. Une lutte qui ne comprend pas l'importance du care est vouée à l'échec. Les révoltes collectives les plus féroces sont construites sur des bases faites de soutien, d'entraide et de soins mutuels. Mais réclamer le care ne signifie pas de seulement nous donner plus de care, comme un élément de plus sur la liste des choses à faire. Cela signifie rompre le traité de paix avec nos dirigeants, retirer le care des processus de reproduction de la société dans laquelle nous vivons et l'utiliser à des fins subversives et insurrectionnelles. au-delà de l'instinct de conservation. La meilleure façon de vendre un programme de normalisation aux gens est de le définir en termes de santé. Après tout, qui ne veut pas être en bonne santé ? Mais comme le self et le care, la santé n'est pas monolithique. En soi, la santé n'est pas intrinsèquement bonne. Elle est tout simplement la condition qui permet à un système de continuer à fonctionner. Donc vous pouvez parler de la santé d'une économie ou de la santé d'un écosystème. Ils vont souvent en opposition. Ceci explique pourquoi certaines personnes décrivent le capitalisme comme un cancer, tandis que d'autres accusent les anarchistes du Black Bloc d'en être le cancer. Les deux systèmes sont létaux l'un à l'autre. Nourrir l'un, c'est compromettre la santé de l'autre. La fonction répressive des normes de santé est assez évidente dans le domaine professionnel de la santé mentale, par exemple. Dans une société capitaliste, la tendance à mesurer la santé en termes de productivité ne devrait pas être surprenante. Self-care et work-aholism sont les deux faces d'une même pièce, se préserver pour pouvoir produire plus. Cela expliquerait aussi pourquoi la rhétorique du self-care est si répandue dans le secteur sans but lucratif, où la compétition pour le financement est forte et oblige souvent les organisateurs à imiter le comportement des corporations, même s'ils utilisent une terminologie différente. Si le self-care est simplement un moyen d'atténuer l'impact de la demande sans cesse croissance pour plus de productivité plutôt qu'un rejet de cette demande, il fait partie du problème. Donc, pour que le self-care soit anticapitaliste, il doit exprimer une conception différente de la santé. Cela s'avère particulièrement compliqué dans la mesure où notre survie est étroitement interconnectée avec les mécanismes du capitalisme, une condition que Foucault appelle le biopouvoir. Dans la situation actuelle, la meilleure façon de préserver sa santé et d'exceller dans la compétition capitaliste, c'est la même qui nous fait tant de mal. Pour échapper à ce cercle vicieux, il faut passer de reproduire le self à produire quelqu'un d'autre. Cela exige une notion du self-care qui est transformative plutôt que conservatrice, qui entend le soi comme dynamique plutôt que statique. Le but n'est pas d'éviter le changement, comme dans la médecine occidentale, mais plutôt que de le stimuler. Donc dans le jeu de tarot, par exemple, la mort représente la métamorphose. Il n'y a pas d'autre pilule à prendre, autant alors avaler celle qui nous a rendu malade. Du point de vue du capitalisme et du réformisme, tout ce qui menace les rôles sociaux est malsain. Tant que nous sommes maintenus à l'intérieur de leur paradigme, il se peut que ces comportements jugés malsains soient la seule échappatoire. Rompre avec la logique du système qui nous a gardés en vie exige une certaine dose d'insouciance téméraire. Donc c'est peut-être là le lien avec les comportements apparemment autodestructeurs et la rébellion, qui remonte à bien avant les concerts par exemple de punk rock. Le côté radical des assemblées d'Occupy Auckland, qui rassemblaient tous les fumeurs, était connu affectueusement comme le bloc du poumon noir. Donc le cancer d'Occupy, en effet. L'énergie autodestructrice qui pousse les gens à la toxicomanie et au suicide peut également leur permettre de prendre des risques courageux pour changer le monde. Nous pouvons identifier plusieurs courants au sein des comportements autodestructeurs, dont certains présentent un énorme potentiel. Nous avons besoin de mots pour explorer ce phénomène puisque le vocabulaire du self-care tend à perpétuer une fausse binarité entre maladie et autodestruction d'un côté et santé et lutte de l'autre. Car lorsque nous parlons de rompre avec la logique du système, nous ne parlons pas seulement d'une décision courageuse venue de nulle part, prise par des sujets sans doute en bonne santé. Même en dehors des comportements autodestructeurs, beaucoup d'entre nous ressentent déjà la maladie et le handicap qui nous excluent du concept de santé établi par la société. Cela nous oblige à débattre la question de la relation entre santé et lutte. En ce qui concerne la lutte anticapitaliste, est-ce que nous associons aussi santé et productivité, ce qui implique que les malades ne peuvent pas participer efficacement? Au lieu de cela, sans affirmer que le malade est le sujet révolutionnaire comme le fait le projet Icarus, nous pourrions chercher des moyens d'aborder la maladie qui nous extirpe de notre conditionnement capitaliste, interrompant une façon d'être dans laquelle l'estime de soi et les liens sociaux sont fondés sur un manque de care pour nous-mêmes et entre nous. Plutôt que de les pathologiser comme des troubles devant être guéris pour des raisons d'efficacité, nous pourrions réinventer le self-care comme une façon de trouver dans la maladie et l'autodestruction de nouvelles valeurs et possibilités. Pensez donc à Virginia Woolf, à Frida Kahlo, à Voltairine de Cleyre et toutes les autres femmes qui ont tiré parti de leur lutte privée avec la maladie, les blessures et la dépression pour créer des expressions publiques de care indisciplinée. Que dire de Nietzsche ? Sa mauvaise santé n'est-elle qu'un simple obstacle virilement vaincu ? Ou est-ce que son état de santé est inextricable de ses idées et de ses luttes, une étape essentielle sur le chemin qui l'a conduit au-delà de la sagesse reçue pour découvrir autre chose. Pour comprendre ses écrits dans le contexte de sa vie, nous devons nous imaginer Nietzsche dans un fauteuil roulant, chargeant une ligne de police anti-émeute et non s'envolant dans les airs avec un S sur la poitrine. Notre fragilité humaine n'est pas un défaut regrettable à traiter par le self-care approprié, pour pouvoir se remettre au travail. Maladie, invalidité et improductivité ne sont pas des anomalies à éliminer. Ce sont des moments qui se produisent dans la vie de tous. Ces moments offrent un terrain commun où nous pourrions nous retrouver, connecter et nous entendre. Si nous prenons ces défis au sérieux et si nous nous autorisons à nous concentrer sur eux, ils pourraient montrer la voie qui nous permettrait de dépasser la logique du capitalisme, vers un mode de vie dans lequel il n'y a pas de dichotomie entre le care et la libération.
Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, pour les acharnés, trop épris de liberté, pour chauffer à la casserole toutes nos idées folles, pour nous rendre pacifiques face à la panique. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, dans un monde chaotique qui se permet des diagnostics, où les mères exacerbées sont tous mis au secret. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, aux remèdes plastiques, à réalité unique, pour jouer à te droguer avec d'autres internés. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, qui selon la psychiatrie apaisera tes insomnies, où ta lucidité sera exterminée. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, qui heurtera la magie de tes belles euphories, où l'irrationnel est passé au scalpel, où nos idées folles sont noyées dans le formol. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, pour te faire taire dans un monde sécuritaire, pour coller une étiquette y compris dans ta tête. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, pour nous ramollir au lieu de nous faire jouir, avec chambre d'isolement, éviter tout rassemblement. Camisole chimique pour des cerveaux atypiques, camisole chimique pour des cerveaux atypiques, camisole chimique pour des cerveaux atypiques. Et si tu pètes un plomb, évite le tourbillon.
Radio Kiosque. Lecture subversive une fois par mois. Radio Kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Saint-Afrique.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.